Bonsoir à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir une nouvelle fois pour ce nouveau podcast. Nous nous excusons pour les 5 minutes de retard, les aléas du direct, nous n'avons pas maîtrisé ce nouveau hangout, puisque vous avez peut-être vu, nous avons créé une chaîne propre à eTeachers, et bref, écoutez, pour ce soir ce sera encore comme les premières fois, on est très heureux de vous retrouver. Un petit mot de Jeff sur le dernier podcast, parce qu'on a eu des retours, ma foi, fort, fort intéressants.
Oui, bonsoir tout le monde. C'est vrai qu'on a eu pas mal de retours, ça fait plaisir. Via notre communauté Google+, qui a 16 membres, je crois, ce soir. C'est déjà pas mal. quelques retours via Twitter, qu'est-ce qu'on a eu encore? Via Facebook un petit peu. Donc, on a eu Fabien qui nous a donné on avait travaillé sur YouTube, comment télécharger sur YouTube. Et Fabien nous a donné une très bonne astuce que je connaissais pas moi, qui était avant l'adresse YouTube de mettre simplement SS, donc http://www, et avant youtube.com de mettre SS. Et ça marche pas trop mal. On arrive directement, en fait, ça nous fait un lien directement vers un site un peu comme Fluvor qu'on a vu la semaine dernière. Pour télécharger directement les chaînes YouTube. Voilà, c'était une très bonne astuce de Fabien. On le remercie en tout cas.
Merci Flavien. Merci Fabien. En tout cas, continuez à nous faire remonter vos impressions, vos envies, vos discussions, si vous avez des sujets que vous souhaitez qu'on aborde. Encore une fois, le ton est volontairement cool pour ce podcast. On parle de choses qui nous intéressent de manière conviviale. C'est un podcast qui est ouvert à tous. Je pense que les aficionados de TIS n'y trouveront peut-être pas forcément leur compte, puisqu'ils vont connaître la plupart des choses dont on va parler, mais ce n'est pas le but, justement. Hein. C'est vraiment quelque chose pour faire partager à ceux qui n'ont pas forcément le temps de se tenir à jour, de découvrir des choses. On le fait pour eux, puisque nous, c'est notre plaisir. Donc, voilà. Donc, ça ne sert à rien de nous dire « Ah mais oui, mais t'as pas présenté ci, t'as pas présenté ça. » Oui, oui, on est conscient qu'on peut pas être exhaustif sur tout. C'est vraiment une volonté, on fait des choix complètement personnels, complètement subjectifs. Il n'y a jamais eu une volonté de faire une veille professionnelle d'outils ou je ne sais quoi. On parle de ce qu'on utilise, de ce qu'on aime. Et puis, voilà.
Non, et puis quand on nous donne quelques infos aussi, si on les trouve intéressantes, on les lance aussi, hein, donc
exactement. Voilà. Alors un petit coucou rapide à un ami qui nous a suivi la semaine dernière et qui m'a dit que je bougeais beaucoup sur mon siège, c'est complètement vrai. Je t'embrasse Bibi et j'espère que tu nous écoutes ce soir. Voilà, et je vais continuer à bouger parce que ça me plaît.
Bon. Allez, vas-y, c'est moi qui attaque, ouais.
Ouais, un petit sommaire peut-être du podcast pour ça.
Moi je vais essayer de parler un petit peu sur une sur comment ça s'appelle une étude qui a été faite au Canada, donc sur les TIS justement, et qui a été reliée justement par Eduscol, hein, le célèbre site Eduscol. Donc je vais parler de ça et je vais essayer de parler aussi d'un petit logiciel plutôt branché science, voilà.
D'accord. Bonsoir. Eh bien, moi, plusieurs petites choses. En priorité, on va parler un petit peu de quelques petits utilitaires qui permettent d'annoter l'écran. Vous savez, quand on est en vidéoprojection, ça peut être utile de pouvoir annoter l'écran quand on n'est pas forcément équipé d'un tableau blanc interactif et qu'on n'est pas équipé. Voilà, on peut quand même annoter des choses avec une souris et un clavier pour pouvoir ensuite faire des copies d'écran, les exporter et les laisser à l'intention des élèves. Voilà, donc c'est pas un cours sur le TBI, hein. Les logiciels de TBI volontairement, ça reste des petits utilitaires. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse quelque chose sur les TBI à l'occasion. Voilà, voilà. Eh bien, je t'en prie, attaque, c'est parti.
Tout à fait. Allez. Donc j'ai trouvé une étude que je vais essayer de partager aussi pour ceux qui nous regardent en vidéo. Justement, si je la trouve, donc c'est une étude qui a été faite par une association canadienne d'éducation de la langue française. J'essaie en même temps de faire deux choses à la fois. Ça, c'est un truc qu'on ne sait pas faire, nous les hommes. voilà, on va y aller. Voilà, voilà l'étude, vous l'avez normalement. Non, à l'écran. Donc c'est une étude qui j'ai trouvé fort intéressante parce que c'est donc tout ce qui est francophone bien sûr forcément. Il y avait quatre axes thématiques sur cette étude. L'axe numéro un, alors je le lis, s'appelait donc développement de compétences, usage, impact et évaluation des technologies de l'information et de la communication. Donc les études en fait étaient pour voir un petit peu l'avantage des TIS dans l'éducation. Il y a eu pas mal d'études hein, par les ordinateurs de portable au primaire, est-ce que les TIS motivent plus, etc. Alors il en est sorti qu'en fait, en parlant tout simplement déjà avant de préparer, avant d'utiliser les TIS, en fait, les élèves hein, dans le primaire ou dans le secondaire, en fait, étaient déjà motivés avant de l'utiliser en fait. Donc j'ai trouvé ça plutôt amusant finalement qu'il suffisait finalement d'en parler pour déjà être motivé. Il est sorti aussi que tout ce qui était par rapport à beaucoup sur l'écriture, on disait que les TIS motivaient les élèves justement à écrire. Donc cette étude-là, je trouvais ça aussi assez intéressant, cette chose-là. Deuxième axe, ouais, je sais pas ce que t'en penses, tu peux peut-être.
Moi non, vas-y continue, je réagirai après.
Une deuxième étude, donc, était plutôt sur les technologies émergentes, ils appelaient ça potentiel, enjeux actuels et futurs pour l'éducation. Donc c'était tout ce qui était Web 2.0, ce qu'on appelle le blog, le wiki, les flux RSS, des choses comme ça.
Il y a eu est-ce que tu pourrais peut-être revenir pour certains de personnes qui nous écoutent sur vraiment donner peut-être une définition du Web 2.0 parce qu'on en entend parler tout le temps systématiquement, mais je ne suis pas sûr vraiment que les gens soient tous vraiment au courant de ce qu'on appelle le Web 2.
Alors moi j'ai une ferais, toi, vas-y, je te laisse faire.
Assez simple que je donne régulièrement en formation, à savoir que le Web 2, contrairement au Web 1, donc par définition, est vraiment le Web collaboratif. Hein. C'est depuis l'arrivée de tout ce qui permet à l'utilisateur de mettre des contenus en ligne, de les partager, d'échanger de manière simple sans être un as de l'informatique. Il faut se rappeler que le Web 1, au tout début, hein, avec ce qu'on faisait au début d'Internet, les pages étaient plus ou moins statiques. On pouvait imprimer des contenus, on pouvait éventuellement envoyer des messages, mais on pouvait pas mettre ses photos en ligne, échanger, partager. Non. Voilà. Donc c'est vraiment la révolution. En général, on la date aux alentours de 2004 avec l'avènement des premiers blogs. Hein. Voilà. C'est ça le Web 2.0, c'est le web collaboratif de partage, le web social qui permet à des internautes d'échanger sur Internet sans forcément être des webmasters professionnels. Voilà.
D'accord. Donc c'est pour ça que justement c'est donc ce que je disais c'est le blog hein, ce que tout le monde connaît, le wiki c'est un genre de forum où on peut se répondre et les flux RSS hein, les flux RSS c'est comment expliquer les flux RSS c'est des extraits de d'articles disons d'accord qu'on va recevoir directement
le wiki voilà. C'est pas exactement un forum, c'est-à-dire que le wiki c'est plutôt un document collaboratif qu'on peut travailler on prend plus gros le wiki
d'accord.
En ligne c'est pas le forum, le but conversation c'est vraiment de travailler à plusieurs sur des documents
sur un sujet tout à fait c'est vrai. T'as fait bien de me reprendre, tu vois.
Voilà, exactement.
Donc, il y a eu une étude justement sur une école infirmière qui a participé justement par rapport à un wiki, et c'était plutôt intéressant parce que ils ont surtout retrouvé par rapport à des rappels. Voilà, ils ont dit que c'était vraiment quelque chose pour réviser, pour une notion qu'ils ont vue. C'était vraiment, il est ressorti que c'était vraiment des rappels qui étaient très stimulants. Donc ça c'est plutôt pas mal. Axe 3, développement professionnel des TIS. Développement professionnel, donc là on va plutôt parler de l'enseignant. Donc pas mal d'études aussi dessus. Et il est ressorti quand même que les enseignants, alors c'est vrai que c'est canadien, mais bon, moi je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances avec nous. Le développement donc par rapport aux profs, les TIS par rapport aux profs. Donc cette étude-là sort quand même que beaucoup de profs finalement avaient ce qu'on appelle d'auto-efficacité chez les futurs enseignants.
D'accord.
C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce qui est arrivé ? C'est que les usages pédagogiques en classe se limitaient en primaire à toujours le traitement de texte, ce qu'on fait depuis
longtemps,
des années, et la recherche d'informations finalement, en ligne, et même dans le secondaire. Donc finalement, intégrer les TIS, on reste quand même, ça fait quoi, j'ai pas envie de dire 20 ans qu'on fait ça, mais j'ai l'impression que ça n'a pas beaucoup évolué. Et on pourrait faire la même étude en France, je pense que c'est ce qui ressortirait.
Ben,
non ?
La question de l'intégration des TIS, elle n'est pas telle. Enfin,
vas-y.
C'est les TIS qui ont évolué, mais la volonté d'intégrer les nouvelles technologies, c'est quelque chose qui a toujours existé, à mon sens. Donc c'est un peu. Le terme est un petit peu galvaudé, ou en tout cas, de quoi on parle concrètement. Si on prend un exemple de la matière dont je peux parler, à savoir les langues, les TIS, ça a toujours fait partie du boulot. Je veux dire, à partir du moment où on utilisait un lecteur cassette, voire même des lecteurs à bande avant, ça faisait quelque part partie des TIS, des technologies de l'information et de la communication. Alors,
c'est vrai, c'est vrai.
Je ne sais pas de quoi on parle, en fait. Est-ce qu'on parle des nouvelles technologies ?
Là, c'est les TIS en général. Alors, pour moi, c'est vrai que c'est quand on parle de Web 2.0, ça reste une nouvelle technologie, quoi. Donc, l'étude est vraiment sur la partie informatique, sur l'intégration des TIS dans. Voilà.
D'accord.
Moi, je trouve. Voilà, sur ces études-là, ce qui faisait ressortir, c'est que par rapport aux profs, c'est que finalement, il y a beaucoup de nouvelles technologies, mais elles ne sont pas spécialement intégrées à l'intérieur. Finalement, on reste toujours au traitement de texte et à la recherche d'infos. Pour, voilà. Dans des salles informatiques, avec 20 postes, on y va, on fait du traitement de texte.
Mais voilà. Alors, si on prend notre, si on compare avec notre exemple chez nous, est-ce que c'est pas lié d'abord toujours à un souci extérieur de matériel, je parle de l'enseignement public pour ce qui nous concerne, ce qui, à mon sens, est de moins en moins réel, puisqu'on est quand même de mieux en mieux équipé, et est-ce que ça peut venir de des idées, est-ce que ça peut venir de l'investissement, qui demande beaucoup d'investissement au départ? J'arrive pas à savoir ce qu'il faut en tirer en fait de ça.
Ouais, c'est vrai que je sais pas là-dessus. Est-ce que c'est alors il y a un quatrième axe justement sur cette ce qui sort, c'est vraiment la priorité pour eux, c'est la formation. Pour eux, ils sont basés vraiment et en ressort, c'est que ça manque de formation. Voilà, des enseignants. Moi, ouais, c'est évident, ouais. Parce que les jeunes profs, je pense, la technologie maintenant, ils la maîtrisent, à mon avis.
Oui,
moi, je pense. Et ils n'ont pas encore peut-être comment l'intégrer à leur pédagogie, voilà.
Moi, je pense voilà.
Que c'est ça, voilà.
Je pense que la technologie, c'est une chose, l'intégrer à sa pédagogie, encore plus sur des axes didactiques également, c'est vraiment deux choses. On gère pas une classe de la même manière quand on est en scène informatique que quand on est dans un contenu un peu plus classique. Et de surcroît, avec l'arrivée des tablettes, des classes mobiles et ce genre de choses. La formation, je suis d'accord. En plus, pour avoir une activité de formation par ailleurs, auprès des collègues enseignants, notamment sur les TIS, on voit bien que le jour même, les gens sont très très intéressés, bien évidemment, ils le sont de toute façon foncièrement, mais entre ce qu'ils prennent en formation, ce qu'ils appliquent ensuite en classe, quand on est pris dans le contenu classique des cours, finalement ça peut remettre en perspective sa pratique de manière significative, donc de demander de changements importants, donc bon. Et pour des fois, pas forcément des résultats. Je crois qu'avant toute chose, il faut se poser la question qui est-ce que ça va vraiment apporter un plus à mon enseignement. Parce que faire de la technologie pour de la technologie, ça ne sert strictement à rien. Je veux dire, si c'est pour passer.
Oui, mais.
On aura l'occasion de reparler des TBI, mais si c'est pour passer.
On parlait de la motivation, là.
Mais de la motivation de qui ? Des enseignants ou des élèves ?
Non, des élèves, là, sur le premier axe. Le premier axe, je te parlais des motivations des élèves. Donc, si déjà on a de la motivation, on a quand même pas remporté on a peut-être à 50% déjà, ce sera peut-être plus facile de faire passer des notions ou des compétences, des choses comme ça, non? Qu'est-ce que t'en penses?
On a un message de Guillaume Morin qui nous dit ça peut venir aussi du fait que nos jeunes ne sont pas une génération connectée, avec un petit smiley, du moins pour le travail avec des outils info. Je suis complètement d'accord avec ça. Aujourd'hui, vous parlez effectivement, mais même dans les jeunes profs, hein, dans les gens qui arrivent, ils n'ont plus peur effectivement de l'outil parce qu'ils sont chez eux complètement gavés de tablettes, d'ordinateurs, d'écrans. Donc ils ont moins d'appréhension par rapport à ça. Par contre, pour moi, c'est pas des gens qui font de l'informatique. Aujourd'hui, faire de l'informatique, c'est pas juste télécharger une application sur un App Store ou un Play Store et tapoter trois trucs. Enfin, voilà. Donc je pense qu'il y a il y a génération connectée, mais après, c'est l'utilisation, les choses, c'est différent, quoi.
Faut savoir quoi en faire. Bon.
Il faut savoir comment faire. Mais c'est un débat qui est vraiment intéressant et je pense qu'on doit encore avoir, puisque on va être quand même de plus en plus amené à travailler avec ces outils-là. J'espère qu'on saura faire le tri entre les séances qui apportent vraiment quelque chose et puis les séances qui font plus perdre du temps et de l'énergie à tout le monde. Mais voilà. Et qu'est-ce qu'elle dit enfin cette étude ?
Bon, on a fait à peu près le tour. Alors, il y avait un axe plus TIS, culture et société où je trouve que c'était un petit peu moins intéressant là-dessus. Parce qu'ils avaient fait une étude au Niger justement sur la représentation sociale de l'ordinateur. Bon. Voilà, c'était peut-être moins intéressant, j'ai moins accroché cette étude-là. Voilà. Je m'arrêterai là.
Guillaume nous dit je parlais des élèves. Oui, bien sûr, bien évidemment. Non, mais c'est vrai que les élèves. Non, c'est tout à fait ça. Pour terminer sur le sujet, je lisais hier un article dans un journal de Los Angeles, en tant que prof d'anglais, j'essaye de lire un peu de la presse étrangère. Et il y a un gros débat en ce moment par rapport à ça, à savoir que l'État de Californie a dépensé. Alors, je vous dirais une bêtise sur le chiffre exact, mais je crois bien que c'est de l'ordre du million en mise en place d'iPad dans des écoles, alors qu'à côté de ça, on coupe, il y a des coupes importantes dans les postes des enseignants, des vrais, quoi, pas des robots, des humains. Et c'est vrai qu'il faut faire attention aussi, l'outil ne va pas remplacer. C'est comme dans tout, de toute façon, on ne peut pas remplacer l'enseignant parce que c'est comme l'enseignant qui met en place sa pédagogie et qui, avec l'outil, un outil seul, il ne fera pas le boulot. Donc attention au contenu autopiloté, autogéré, auto. Attention à tout ça.
Ça voilà. Pourrait être un débat parce qu'il y a quand même en ce moment, on entend beaucoup parler d'e-learning par exemple, qui est à la mode. Hein, donc bon, les MOOC ou les choses comme ça. Voilà.
E-learning, des serious games, des MOOC bien évidemment. Donc les MOOC pour
c'est un autre débat ouais bon
c'est un autre débat on y
on
ouais,
aura ouais, on en reparlera là-dessus non, ouais. On aura peut-être un invité là-dessus justement
merci pour l'intervention de Guillaume, ça prouve qu'on n'est pas en train de parler tout seul.
Ouais, merci Guillaume.
Je continue alors,
vas-y. Ouais,
allez, très bien. Donc comme je vous le disais en début de podcast, je vais vous parler rapidement d'un petit outil, enfin de plusieurs petits outils qui permettent, vous savez, d'annoter les écrans, c'est-à-dire que quand vous êtes en salle de classe en train de vidéo projeter quelque chose sur votre contenu, ça peut être intéressant de pouvoir surligner, souligner, entourer des choses. Tout ça pourquoi ? Alors bien sûr, dans l'absolu, c'est pas juste pour le faire en classe. Sinon, si vous projetez sur une surface blanche type tableau blanc, vous pouvez aussi annoter avec n'importe quel marqueur pour tableau blanc. L'intérêt vraiment, c'est de le garder derrière, d'exporter l'image et de pouvoir la joindre tout de suite sur un blog, sur un environnement numérique de travail, faire un certain nombre de choses. Voilà. Alors je vais vous parler d'un petit outil, je vais vous faire la démonstration avec celui que j'utilise sur un ordinateur qui tourne sous macOS, hein, puisque c'est mon j'aime bien cette plateforme, je travaille beaucoup avec cette plateforme. Je ne veux énerver personne, mais voilà, bon, c'est un choix depuis des années, bien avant l'avènement des iPhones et autres. Voilà, cet outil s'appelle Desk Scribble, DESK SRIBLE, on le remettra sur les liens. C'est un outil qui doit coûter 4 ou 5 euros, donc qui est vraiment pas cher par rapport à ce qu'il apporte, et qui permet d'avoir une petite roue qui apparaît. Alors je vais essayer de vous montrer ça, si ça veut bien marcher. Je la lance et je vais essayer de partager mon écran. Je ne sais pas. La dernière fois, ça a planté à ce moment-là, donc on va voir. Ah, est-ce que.
Alors, c'est pas trop pour les ceux qui nous écoutent.
Ah, bah regarde, on te voit, ça y est, tu te vois, ça fait une espèce de boucle.
Ah oui.
Et oui, parce que du coup, c'est ma fenêtre.
C'est un peu bizarre. Hein. Juste, j'explique ceux qui nous écoutent en audio. Hein. Il fait quelques manips pour qu'on voie son écran. Hein. Voilà.
Voilà, donc par exemple, vous voyez là, en haut à gauche de l'écran, il y a une toute petite roue, c'est très simple. Vous pouvez juste choisir un crayon. Une gomme, quelques couleurs. Donc, dans les couleurs, vous pouvez choisir soit des couleurs pleines, soit ce qu'on voyait en dessous en anglais, highlighted, qui veut dire surligneur, en fait, hein, qui permet de laisser le contenu apparaître derrière. Voilà, donc si par exemple, je veux aller annoter et faire des moustaches à mon ami Jeff ici, je vais pouvoir le faire. Ne bouge pas.
Attends, je me mets droit.
On va mettre droit, droit. Voilà, hop, enfin, vous voyez. Je note sur mon écran, voilà, je peux lui faire ça. Je vais pouvoir mettre aussi deux eyeliner d'une couleur bleue. C'est là le eyeliner, je sais pas. Ouais. Enfin bref, Vous voyez. Donc, il faut bien évidemment... Hop, j'efface. Merci, Jeff. Il faut bien évidemment imaginer ça pour annoter à du texte. Hein, par exemple, si vous souhaitez mettre des choses en évidence pour les élèves, là, je vais aller surligner du texte qui est ici, sur la droite. Voilà, j'annote. Voilà. Donc ça, c'est toutes des choses que vous pouvez faire facilement à la souris. Vous pouvez rajouter aussi du texte écrit. Et le tout en un clic, hein, avec un petit bouton qui va vous permettre de partager vers du JPEG, du PNG, du PDF, tous les formats d'image classique. C'est une très bonne alternative aux outils de TBI, quand on n'a pas de TBI d'ailleurs. Voilà. Pour les profs de langue, par exemple, moi je m'en sers énormément quand je fais de la compréhension écrite, hein, sur des textes qui permettent d'annoter, de mettre en évidence des parties du texte. Alors ça, c'est un outil sur...
Mac uniquement.
Ça, c'est un malheureusement, oui, parce que moi j'aime bien les multiplateformes.
On n'a pas de Mac dans les établissements.
Ah non, on n'a pas de Mac dans les établissements. Non. C'est un outil multiplateforme. Ça me refait comme la dernière fois, j'arrive pas à deviner mon truc. Bref.
Il en existe beaucoup d'autres. Alors, je sais pas si t'en as utilisé plusieurs. T'en as essayé plusieurs, c'est ça?
Alors, j'allais parler d'un outil qui s'appelle Point2Fix. Pour les PC, voilà, donc point comme le point, to fix comme réparer en anglais, F-I-X, et qui permet donc la même chose sous Windows, on mettra le lien, t'en connais d'autres toi?
Non, point to fix, je l'avais déjà vu utiliser, ouais, aussi. Ouais.
Bon. Voilà, écoute, j'ai terminé pour ce petit outil et je te laisse continuer.
Allez, on va parler un petit peu science, on n'a pas trop parlé, hein, surtout que c'est plutôt mon domaine depuis les premiers podcasts. J'ai parlé d'un logiciel qui s'appelle AlgoDoo. Alors, je vais essayer de l'épeler A-L-G-O-D-O-O. C'est un logiciel gratuit qui existe sous PC, sous Mac, je ne sais pas. Par contre, qui existe sur iPad aussi. C'est une appli pour faire des... Alors, comment ? Je vais essayer de partager. Je suis en train de partager aussi mon écran en même temps. On va essayer de le faire voir. Hop, hop, hop. Voilà. Vous devez avoir les... Oui, ça y est, voyez ? AlgoBox, c'est ça ? Allô,
oui.
Guillaume, tu es
bon ? Oui, c'est bon, je suis là. C'est bon.
Ce petit logiciel va vous permettre de faire en fait des expériences qu'on peut pas faire forcément dans le réel. Alors dans mon domaine, ce serait plutôt, vous savez, des roues dentées qu'on va mettre l'une à côté de l'autre, qu'on va pouvoir imbriquer à l'intérieur, qu'on va pouvoir faire tourner. On va utiliser la pesanteur. Il y a beaucoup de choses. Alors j'aurais voulu faire voir une petite vidéo de démonstration si ça passe, ou sinon je fais une petite démo. On va essayer de voir. Je sais pas si la vidéo ça fonctionne.
Écoute.
Voilà, donc je vais le faire en même temps. Donc voilà, on a l'apesanteur qui est en jeu, qui a le frottement de certaines choses. Alors moi je l'utilise, voilà, pour tout ce qui est roue dentée, courroie. Hein, on va mettre une roue. Voilà, là par exemple, on va pouvoir faire même des essais par rapport à des matériaux. On va pouvoir changer de matériaux, de la résistance sur les matériaux. Franchement, c'est génial. C'est vraiment une application géniale. Gratuite en plus. Alors je crois que sur iPad elle est peut-être payante. J'ai peut-être coupé le son. Je sais pas si vous entendez le son en même temps. Voilà. On va pouvoir faire tourner les choses. On va pouvoir imbriquer les dents. Enfin franchement, c'est l'imagination qui va nous arrêter. Alors ça prend un petit peu de temps de mise en place. Moi j'ai mis un petit moment à m'y faire. Mais pour les profs de physique, pour les profs de techno, pour tout ce qui est easy en lycée technologique, franchement c'est génial. Franchement, c'est des expériences qu'on peut faire, vraiment génial. J'ai tombé amoureux de ce logiciel et pour un logiciel gratuit en plus, franchement. Alors il y a que sur iPad. Faut vérifier sur iPad si c'est payant ou non. Voilà.
J'allais justement te poser la question parce que je devais pas être là quand tu l'as dit.
Je regarde pendant que tu fais tu fais la suite. Voilà.
Bah écoute, c'est-à-dire que la suite.
On arrive à la fin, c'est ça?
On arrive un peu à la fin. Ben en tout cas, non, parce que je voulais attaquer un petit peu parler du Drive de Google, en fait, en parlant notamment de la feuille de calcul et du formulaire qui permet de faire, enfin qui permettent, puisque les deux associés permettent de faire des choses très intéressantes en termes d'évaluation diagnostique, par exemple pour tout ce qui est test QCM autocorrigé. C'est vraiment intéressant, mais du coup, ça sera l'occasion d'un prochain épisode parce que ça, c'est un petit peu long à expliquer en direct et j'avoue même que je ne suis pas prêt. Donc, voilà.
Bon, j'étais en train de regarder le prix sur l'App Store, je ne trouve pas. Je vous dirai. Il est disponible sur Mac aussi, au fait, Algodoo.
Sur le Mac App Store, ouais, d'accord.
Ouais, Mac App Store.
Bon, c'est vrai que même en étant bon, ce qui me concerne,
oui,
plus tourné vers la porn, je reconnais que c'est dommage que les développeurs ne fassent pas de portage multiplateforme. Enfin, c'est faux ce que je dis, puisqu'il y a beaucoup de portage multiplateforme.
La preuve, là. Hein.
Pardon ?
La preuve sur Algodoo, hein, par exemple.
Voilà, c'est ça. Mais c'est quand même un peu dommage que certaines applications ne soient pas introuvables sur toutes les plateformes. Bon, après...
4,99€ sur iPad. Voilà.
Bon. Mais voilà. Pour une licence, oui, c'est difficile à dire sur le 4D. Mmh.
Voilà.
D'accord, très bien.
Voilà. Mais j'ai envie de remercier un peu les retours de Guillaume qui nous a fait quelques retours. On a eu pas mal de retours, c'est sympa.
C'est très très bien. C'est très très bien. On a décidé de rester sur ce format d'une petite demi-heure puisque. Ouais. Ah oui, pardon, Guillaume me dit sous Windows, perso, j'utilise Point to Fix. Effectivement, il nous a mis le lien. Oui, voilà, j'en ai parlé un petit peu de Point to Fix. On mettra le lien après dans les retours. Hein.
D'accord.
Tu nous mettras ça, Jeff, ouais, dans le.
Ouais, pas de problème, ce sera dans les notes de l'émission.
Dans les notes de l'émission.
J'aimerais juste rajouter un petit truc sur. Laissez-nous. Ce qui nous fait le plus connaître, quand même, ça reste iTunes. Ce serait bien quelques petites étoiles. Voilà. Merci. C'est tout.
Si vous avez l'habitude d'écouter des podcasts, n'hésitez pas à nous mettre un très bon avis avec un maximum de 5 étoiles. Et vraiment, merci beaucoup à Guillaume. C'est très sympa d'avoir interagi avec nous. Point to Fix nous parle de la version compatible avec le multi-écran. Effectivement, c'est des outils. N'hésitez pas aussi, si vous les testez lors d'une émission prochaine, à nous faire des retours en nous disant bon, on a essayé ça, ça marche bien, ou au contraire, c'était vraiment tout nul. Encore une fois, on est là pour faire ça de manière conviviale. Bon, Jeff, à très bientôt.
Voilà. Ouais, à très bientôt. Je sais pas si on a essayé tous les 15 jours, mais après on verra bien. Mais
voilà. On verra bien ce qu'il en est. Et puis bon, on a pris un petit peu de temps pour parler, c'est vrai, de ce débat, cette expérience. On était peut-être un peu moins truc et astuce ce soir, mais ça fait aussi partie du truc. Voilà.
Bon. Merci Guillaume.
Salut Jeff.
À bientôt tout le monde.
Ciao.